Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est présenté devant toi. Je te remercie du bon temps qu'on a eu dans la louange ce matin. Merci, Seigneur, d'être présent. Remplis nos cœurs de ton Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de ta joie, de ta paix. Ça nous fait du bien, Seigneur. Puis je te remercie aussi de la bonne nourriture spirituelle, le lunch spirituel que tu nous prépares dans l'étude de ta parole. Merci de tous ces délicieux versets, Seigneur, que tu vas nous révéler, que tu vas graver dans notre cœur, que tu vas nous nourrir et nous fortifier avec, en nous donnant une vision claire de ce que tu t'attends pour nous, pour la prière. Fait qu'on remet nos vies entre tes mains toute cette réunion, puis on te fait confiance pour l'œuvre que tu vas faire pour nous édifier, nous fortifier dans le nom de Jésus. Amen. On a commencé antérieurement une étude sur les premiers pas. Les premiers pas, ça veut dire, c'est les premières choses que quelqu'un devrait savoir quand il part, quand il démarre dans sa vie chrétienne. On n'entendra pas de grand langage théologique, mais on développe les sujets avec des versets de base. Puis des fois, même si ça fait 30 ans que tu es chrétien, le fait de relire ces versets-là, ça fait encore du bien. Parce que même ça fait 30 ans que je suis sauvé, que je me nourris encore de la parole de Dieu. Il y en a ici parmi vous, ça fait 50 ans, vous vivez dans votre vie, dans votre corps, puis vous continuez à manger 3 repas par jour, puis ça vous fait encore du bien de manger 3 repas par jour. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. On ne se lasse pas de s'en nourrir. Puis elle nous nourrit, elle nous fortifie, elle nous fait grandir, elle augmente notre foi, puis on devient de plus en plus solide dans le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, faites-en des disciples, enseignez-leur. On a besoin d'être enseigné. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est la leçon 6, qui nous parle le chrétien et la prière. Ça va nous expliquer c'est quoi la prière, puis on va voir une vingtaine de versets. On partage ces versets-là ensemble. Quand on pose la question, on a un verset pour aller voir la réponse. Tout le monde va fouiller pour aller lire le verset. Puis on médite ensemble. Qu'est-ce qu'on comprend dans ça? Puis après ça, on écrit notre réponse. Que veut dire le mot « prier » ? Mais « prier » veut dire tout simplement « demander ». Dieu a voulu donner à ses créatures un moyen de communiquer avec lui. Cela s'appelle la prière. Dieu aime toute forme de dialogue avec lui. Dans notre cœur, de notre bouche, par des paroles ou des louanges en chantant, il nous invite à passer du temps avec lui, puis il y a plein de promesses qu'il veut donner à ceux qui le cherchent. N'est-ce pas beau? Dieu veut passer du temps avec nous. Il veut qu'on dialogue avec lui. Puis il accepte toute forme de dialogue quand on passe du temps avec lui. Que ce soit dans notre esprit, quand on est en train de parler intérieurement, que ce soit de notre bouche, qu'on soit en train de parler ou en train de chanter des louanges. Dieu, il aime ça. Puis il veut nous bénir dans tout cela. Merci Seigneur. Certains versets qu'on va aller lire vont nous éclairer sur qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Première question, qui doit-on prier? Jean 15, 16. Le premier qui l'a, il lève la main puis il nous lit ça bien fort. Vas-y, mon frère. Pierre.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Qui doit-on prier? Dans ce verset-là, ça nous le dit. Premièrement, il nous dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est pas nous autres qui avons choisi Jésus, c'est lui qui nous a choisi. Il nous a appelés. On marche dans ses voies. Là, il veut qu'on porte du fruit, puis notre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. À qui doit-on adresser nos prières? Au Père. Quand on s'approche de Dieu, c'est à Dieu le Père qu'on se présente. On écrit la réponse. Excusez. Ça a l'air bien insignifiant. Mais vous allez voir qu'en lisant la deuxième question qu'on va voir, qui ne doit-on pas prier? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a plein de dieux dans ce monde, il y a plein de personnages qui se font prier. La Bible est claire, Deutéronome 18, 10. On va voir quelque chose qui s'adresse à propos de la prière. Mais c'est pas réellement la prière, mais quand on parle de prière, c'est de demander ou de dialoguer. Deutéronome 18. On va vous le lire. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Dites-moi, dans ces versets-là, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je prie? Qui est-ce qu'il ne faut pas que je prie? Pardon? L'ennemi, le diable, mais dans ce verset-là, il est écrit textuellement. Ceux qui font des tarots, il ne faut pas parler avec ça, parce que prier, c'est parler, prier, c'est demander. Ça veut dire que tu commences à demander à du monde qui te donne ton avenir. Tu commences à demander à des personnes qui te révèlent. Fait que là, au lieu de t'adresser à Dieu le Père pour prier, tu t'adresses à des devins, des astrologues. Tu commences à demander à des astrologues de te prédire l'avenir. Ceux qui font de la bonne aventure, des magiciens, des enchanteurs. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Ceux qui évoquent les esprits, des prier des esprits. Ça existe de prier des esprits. Ils appellent ça des médiums. C'est des gens qui sont en contact avec les esprits, les démons. Puis il y en a qui vont les consulter pour savoir des choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la télévision les films. Les films policiers, puis des fois, il y a des personnes qui ont des visions avec les morts, puis des visions avec les esprits, puis ils consultent ces personnes-là pour résoudre des crimes policiers. Il y a Dieu a ces choses en abomination. Ceux qui disent la bonne aventure, puis personne qui interroge les morts. Combien de fois qu'on entend parler qu'il y a des gens qui disent qu'ils parlent à leur grand-père ou à leur mère qui est décédée, qui parlent à une personne proche qui est décédée, puis ils croient que cette personne-là est auprès d'elle pour répondre à ses prières. Dans ce verset-là, c'est clair qu'on ne doit pas communiquer avec les gens qui pratiquent ces choses-là. C'est une chose que Dieu a ça en abomination. C'est une horreur. C'est même plus que ça, dans d'autres versets, on peut voir que ça donne un accès au diable. Parce que quand tu consultes le monde des ténèbres, le monde obscur, tu commences à rechercher à avoir des réponses en consultant ceux qui évoquent les esprits. Tu es en train de prier puis de demander à ce que ces esprits-là t'annoncent des choses, qui te parlent, puis qui te disent ton avenir, puis... Tu es en train d'ouvrir un accès à ce que ces esprits-là viennent agir dans ta vie, dans ta maison. Combien qu'on a entendu des gens que par une planche de Ouija, ils parlent aux morts, puis là, ils se laissent guider par l'esprit de ce mort-là pour avoir des réponses dans leur vie. Tout ça, c'est des prières ou des recherches de parler qu'on ne devrait jamais avoir en tant qu'enfant de Dieu. D'avoir un désir de parler à ces esprits-là ou à ces démons-là. C'est une chose abominable. Fait que vous pouvez écrire, Dieu veut pas qu'on parle aux devins, aux astrologues, aux augures, aux magiciens, aux enchanteurs, à ceux qui évoquent les esprits, à ceux qui interrogent les morts, à ceux qui disent la bonne aventure. En un mot, prier rien d'autre que Dieu le Père seulement, parce que le premier verset qu'on a vu, qu'il fallait adresser nos besoins, nos requêtes à Dieu le Père. On dit que c'est insignifiant savoir à qui s'adresser quand on prie, mais est-ce qu'on avait les versets sous les yeux qui nous dit « Priez ça et priez pas ça ». C'est important de le savoir que Dieu a ça en horreur, ceux qui consultent l'astrologie puis les bonnes aventures. Puis ça a un lien dans notre vie, puis ça peut nous détacher de Christ. Prochaine question qu'on va répondre. Qui peut et en quel endroit prier? Matthieu 7, le verset 7. On va voir qui peut prier Dieu. Est-ce que tout le monde sur la terre peut prier Dieu? Est-ce juste les enfants de Dieu qui peuvent prier à Dieu? Matthieu 7 nous dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Qui peut prier? Quiconque demande reçoit. Dieu, il est ouvert à exaucer les prières de quiconque sur la planète a un besoin et qui s'adresse à Dieu le Père. Dieu, il dit, quiconque demande reçoit. C'est fort. Des fois, on pensait que c'était avec les chrétiens qui pouvaient être des sacrificateurs. C'est vrai que quand tu te convertis à Jésus, ton premier ministère que tu viens de recevoir, tu es un ministère de sacrificateur. Tu es un ministère d'intercesseur pour prier pour les autres. Mais en réalité, tout le monde sur la terre peut prier Dieu le Père. Puis Dieu, il est disposé à exaucer les prières de tout le monde qui le cherche. C'est fort. Il dit, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, il va trouver et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui dit, j'ai déjà demandé à Dieu, puis il m'a pas répondu. Est-ce que c'est Dieu qui est fautif ou est-ce que c'est la personne qui est fautive? C'est clair que Dieu n'est pas menteur. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai prié Dieu et Dieu m'a exaucé. Dieu vous a exaucé. Vous avez tous vécu des expériences que Dieu a répondu à une de vos prières. Si quelqu'un dit Dieu n'existe pas ou Dieu n'exauce pas les prières, c'est un menteur. C'est parce qu'il n'a pas demandé à la bonne personne. Il peut avoir prié
selon sa volonté.
Oui, mais prier dans les choses aussi selon sa volonté, c'est sûr. Si tu pries pour gagner le million, c'est sûr, attends-toi pas que nécessairement que tu vas l'avoir. Mais des choses de base de la vie, faut que tu apprennes à faire confiance à Dieu, puis croire que Dieu peut exaucer ta prière. Puis il y a plein de promesses qu'il nous dit, n'importe qui va y parler, puis qui va y demander des choses, il va les obtenir. Priez pas votre mononcle qui est mort, votre main qui est mort, ou l'esprit un esprit ange gardien que tu penses qui est là pour te protéger, puis tu commences à le prier, ou prier en allant voir des médiums, puis ainsi de suite, pour avoir des réponses. C'est pas là que sont les réponses. Les réponses, quand tu t'adresses à Dieu le Père, tu dis, Père, Seigneur, là tu y parles. On va voir d'autres réponses qui sont bien intéressantes. À quel endroit peut-on prier? Il y a plusieurs passages dans la Bible. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où les gens priaient. C'est important d'y aller parce que ça va nous ouvrir l'esprit, mais en fin de compte. Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, puis ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Où doit-on prier? Dans ta chambre. Prendre un moment avec Dieu, retiré de toutes les obligations, puis les responsabilités, puis les tracas, les soucis. Parce que si tu restes dans la cuisine, puis tous les enfants courent autour de toi, puis la TV marche devant tes yeux, la radio avec, puis tu sais, tout est bien une grosse distraction autour de toi. Ça peut arriver que tu pries quand même, puis tu réussisses à te concentrer. Mais c'est bien plus facile de te retirer de toutes ces allées-venues-là, de te concentrer, d'être un moment intime avec, en dialogue avec Dieu, puis il dit, même si vous êtes tout seul dans la noirceur, dans votre garde-robe en train de prier, Dieu voit dans le lieu secret et il te le rendra. Parce que Dieu, il aime prendre du temps avec nous autres. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il aime prendre du temps avec nous autres. Acte 3, 1. On va voir un autre endroit que les gens se réunissaient pour prier. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. D'autres passages vont dire qu'il y en a qui se tiennent debout dans le temple en train de prier. L'idée, dans ce verset-là, ça nous dit, autant qu'il y a des moments que Dieu veut que tu pries tout seul, il y a d'autres moments que Dieu veut que tu pries en groupe. Puis que tu peux aller dans un temple, dans une église, dans un local loué, comme ici c'est un local loué, puis on est tous ensemble en train de prier. Ça fait partie de la volonté de Dieu qu'on se réunisse avec des chrétiens pour prier. Il y a même des promesses dans ce sens-là. Il dit, si deux ou trois s'accordent pour demander une chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est dans la volonté de Dieu qu'on se réunisse avec des frères et sœurs pour prier. Puis, qu'est-ce que je trouve pas pire aussi dans ce verset-là? Ça dit, ils ont monté ensemble au temple à l'heure de la prière. C'est que même dans ce temps-là, il y avait des moments fixes dans la journée, c'était à l'heure d'aller prier. Nous autres, on a-tu un moment dans la semaine que c'est l'heure d'aller prier? Oui. On en a deux, puis des fois trois. On parle d'aller au temple et prier. Aller à l'église le dimanche puis aller prier. Qu'est-ce qu'on fait ici ce matin? On est à l'heure de la prière, le dimanche matin, 10h, c'est la rencontre. On prie, on parle à Dieu, on chante des chants à Dieu qui sont en cours de parler à Dieu. Quand on dit « Je veux t'adorer, je veux t'adorer », on est en train de parler à Dieu, mais en chantant, c'est encore une forme de prière. C'est une forme de dialogue avec Dieu. C'est l'heure de le faire. C'est correct, c'est biblique, c'est dans le plan de Dieu qu'on prenne du temps dans la semaine aussi. Le mercredi, il y en a qui ont des groupes vie, des cellules maison, ou d'appeler ça des Bible study, des études bibliques. Mais il y a un moment de prière, de louange, puis un moment d'étude de la Bible. On est en contact avec ce Dieu-là. On s'en est rencontré, notre Dieu, puis on s'en vient lui parler, puis l'écouter. Parce qu'un dialogue, c'est pas un monologue. Dieu, on y parle, mais si je passerais mon temps rien qu'à y parler et à rien écouter, c'est un monologue. La prière, c'est un dialogue. On parle à Dieu, puis on écoute Dieu. Comment Dieu nous parle? Mais il peut nous parler par son esprit quand on écoute les divers enseignements. Il nous révèle des pensées. Il peut nous parler à travers des chants qu'on chante, qu'on parle à Dieu, mais il nous parle en même temps. C'est comme si les phrases nous frappent puis il nous enseigne quelque chose. Dieu nous parle. Il s'agit d'être à l'écoute. Puis on va en avoir plein de preuves qui est là. Des fois, on a du questionnement là, dans notre semaine. Là, puis on arrive à l'église, on commence à louer le Seigneur. Puis, whoop, il nous donne des petits flashs, une phrase qu'on lit dans le chant, puis ça répond à notre besoin, ou un moment dans la prédication, il y a des phrases qui répondent à notre besoin. Dieu est en train de vous parler. Il sert des ministères qu'il a mis là, que ce soit de la louange, des ministères d'enseignement, d'études de la parole, puis il veut vous parler. Il veut dialoguer. Autant qu'il veut vous écouter, autant qu'il veut nous parler. Il faut être à l'écoute, puis on va apprendre plein de choses. Que dans le temple, acte 12-12, un autre endroit où les gens se réunissaient pour aller prier, après avoir réfléchi, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Fait que c'était dans la pratique des premiers apôtres, de se réunir dans les maisons. Une réunion de prière où il y a beaucoup de personnes réunies pour prier dans une maison. C'est-tu compliqué? Il n'y a rien de compliqué là. Dieu aime voir ses enfants qui se réunissent ensemble pour prendre un temps et dialoguer en groupe avec Dieu. C'est fort. Dieu aime notre dialogue qu'on a avec lui en groupe. Fait que dans, vous pouvez marquer réunion de prière dans les maisons. Acte 16, 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte. Ça, c'est la porte de la ville. Parce que la ville avait comme une muraille, puis il y avait une porte dans ce muraille-là. Il dit, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions qu'il se trouvait un lieu de prière. Il y en a que dans le temps de Jésus, les premiers apôtres, ils aimaient prendre un temps dans la nature. Ils avaient fait un lieu de prière dans la nature, sur le bord de la rivière. Tu peux être dans le bois, tu peux être sur le bord de la rivière, tu peux être sur une montagne, tu peux être dans la cour chez vous, sur le bord de la piscine, puis prendre du temps pour prier. Puis ça dit même qu'il n'était pas tout seul. Il y avait un groupe de prières qui avait pris l'habitude de se réunir, puis d'aller là, puis de prier ensemble. Ça veut dire que devant Dieu, que tu sois dans la chambre, que tu sois dans l'église, que tu sois dans ton char, que tu sois dans la nature sur le bord de la piscine, que tu sois dans une maison, en groupe ou seul, Dieu aime qu'on prenne du temps avec lui pour dialoguer avec lui. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On aurait pu rajouter à la shop. Moi, je chauffe l'autobus, là, puis je parle au Seigneur. Quand ma femme conduit, surtout. C'est une joke. Elle ne conduit pas souvent, donc je ne prie pas juste quand ma femme conduit. Ben, je conduis plus souvent qu'autrement. Mais peut-être qu'elle a pris beaucoup pendant que je conduis. Par exemple. Un Timothée 2,8 va nous donner comme un résumé global de ce qu'on vient de voir. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Où est-ce que Dieu aime nous voir prier? En tout lieu. Peu importe ce que vous retrouvez. Mais là, si on se dit, ouais, mais si Dieu aime que je prie en tout lieu, donc je vais rester chez nous pour prier, je n'irai pas à l'heure de la prière à l'église. Je pense pas que ça marche comme ça. Faut premièrement qu'on essaie de respecter les rencontres. Parce que dans ces rencontres-là, il y a des choses que Dieu veut faire, comme l'enseignement de sa parole, des temps de louange en groupe. C'est sûr que je peux prier chez nous. Mais Dieu veut, premièrement, que les moments ensemble entre chrétiens, deux ou trois qui s'accordent, demandent une chose. Puis d'autres versets qui disent qu'il est bon que les deux ou des frères le demeurent ensemble. C'est là que Dieu veut déverser son onction, la vie pour l'éternité. Dans le rassemblement des frères et sœurs, particulièrement, Dieu veut exaucer des prières spéciales pour motiver les gens à venir à l'église, aux rencontres. Mais, peu importe où ce qu'on est, en tout lieu, à tout moment de la journée, on peut adresser des prières à Dieu, puis Dieu nous entend, Dieu nous voit, puis Dieu nous écoute, puis Dieu aime dialoguer et passer du temps avec nous. Des prières sincères. Quoi dire dans nos prières? Parce qu'il y a quand même des choses qui nous sont enseignées, puis il est important qu'on les comprenne, parce que des fois, on peut perdre notre temps en priant. Je vais vous montrer le premier passage, là, qui est vraiment que beaucoup de gens perdent leur temps parce qu'ils s'imaginent des faussetés, ils n'ont pas écouté ce que la Bible a dit là-dessus, sur la prière. Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. OK? Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce verset-là? C'est pas le nombre de personnes, c'est pas les vaines paroles. Moi, je vois deux points là-dedans qui sont bien importants de réaliser. Premièrement, ceux qui pensent que la pensée positive, ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y en a que il axe bien gros à l'idée la pensée positive. Si tu focuses sur un but, là tu y penses à ce but-là, puis tu répètes ton but, là tu penses qu'à force de répéter ce but-là, que tu vas finir par l'avoir. C'est une pensée très populaire aujourd'hui, la pensée positive. Puis c'est pas biblique. Dieu n'a jamais dit qu'il exauçait la pensée positive. Mais il y a des gens qui s'imaginent qu'à force de répéter leurs idées, qu'ils vont finir par avoir un aboutissement. Je vais gagner à la loterie, je vais gagner à la loterie, je vais gagner à la loterie. Puis ils pensent qu'à force de s'imaginer qu'il y a une pensée positive, qu'ils vont gagner à la loterie. Dieu n'a jamais dit qu'il exaucerait des pensées positives. L'autre point que je vois dans ce verset-là, il dit de ne pas multiplier de vaines paroles, des paroles vaines, des paroles vides. Parce qu'il y en a qui s'imaginent qu'en répétant des paroles vides, qu'ils vont être exaucés. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? Je ne veux pas nécessairement critiquer contre ce qui se passe autour, mais il y a quand même une vérité dans la prière. Quelqu'un qui récite sa prière. Un chapelet, deux chapelets, trois chapelets. Puis il pense qu'à force de répéter rapidement la prière, qu'il s'imagine qu'à force de répéter ses prières, il pense d'être exaucé. Perdez pas votre temps dans ce genre de prière-là. Dieu ne prend pas plaisir à vous voir passer 3 heures à réciter le Notre Père. Ça sert à rien, c'est des vaines paroles, des paroles vides, des paroles qui servent à rien. Tu n'as même pas pensé une seconde à ce que tu es en train de dire. Tu penses, tu t'imagines que plus tu vas l'avoir répété, pour ta punition, récite 5 Notre Père, puis 2 Je vous salue. C'est pas écrit dans la Bible, c'est écrit le contraire, ça sert à rien de répéter. Quand tu veux prier la prière Notre Père, c'est celle-là que tu veux faire. Notre Père qui es aux cieux, tu y penses là, que tu es en train de parler à Dieu le Père, puis que tu es devant lui, puis que lui est dans le ciel, puis toi tu es sur la terre. Que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est des louanges que tu dis à Dieu. Là, tu dis à Dieu que ton règne vienne. Ça veut dire, on a hâte que tu reviennes, Seigneur, que ton retour, le retour de Jésus-Christ se fasse. Que ta volonté soit faite sur la terre comme qu'elle l'est au ciel. On veut vraiment que Dieu prenne le contrôle de cette planète-là pour que sa volonté soit faite sur la terre comme qu'elle l'est faite au ciel. Au ciel, tout genou fléchit devant lui, tous les anges de Dieu obéissent à sa voix. Mais sur la terre, c'est une rébellion complète à sa volonté. Mais il veut que quand on prenne ce prière-là, si on veut prendre ce prière-là, qu'on l'adresse en réfléchissant à ce qu'on dit, sinon c'est vain. Ça sert à rien. Oui, mais ça c'est un exemple. Il n'a jamais dit qu'il fallait servir rien que de cette prière-là. On va voir d'autres passages de quel genre de comment prier. Le but c'est de quoi dire dans nos prières. Colossiens 4:2. On va voir une autre chose qu'on doit dire dans nos prières. Puis, on retrouve ça même dans l'exemple de la prière de notre Père. Colossiens 4:2, ça nous dit, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Est-ce que quelqu'un est capable de me dire c'est quoi une action de grâce? Un remerciement. Tu fais une action pour c'est comme si tu étais en train de dire à Dieu, je viens de remarquer, Seigneur, tu m'as accordé une grâce, puis je te fais une action pour te rendre la gloire qui te revient. Merci, Seigneur, d'avoir fait ce que tu as fait dans ma vie en répondant C'est une reconnaissance. Tu veux remercier le Seigneur. Fait que là, dans ce verset-là, qu'est-ce que je dois mettre dans mes prières? Il dit, persévère dans la prière, puis mets-y des actions de grâce. Ben, c'est bien beau de demander, puis de demander, puis de demander, mais mets des remerciements aussi dans ta prière. Dans la prière de notre Père, là, on l'a vu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit déclaré comme étant saint. Même à la fin de la prière, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. C'est encore des louanges qui est introduit dans l'exemple de sa prière. Faut, puis quand, comme j'ai dit tantôt, aussi au début de l'étude, on a un dialogue, que ça sorte en parole ou en louange, en chantant. Quand on est réunis ensemble, qu'on chante un chant, tu es grand Seigneur. Je suis en train de dire une action de grâce en chantant. On est en train de remercier le Seigneur, rendre la gloire à Dieu. Autrement dit, la réunion, là, quand elle commence à 10h, il y a une prière en partant, la forme de réunion qu'on fait, nous autres. On a une prière, on a de la prière avant la réunion dans la salle au bord. On arrive, on rouvre encore pour une prière pour tout le monde. Après ça, on chante des chants qui est encore une continuité de prière. Toute l'Église s'unit ensemble pour chanter les chants. On est tous en train de parler à Dieu. Puis à faire des actions de grâce à Dieu, des louanges à Dieu. C'est la continuité qui doit être intégrée à la prière. Et pourquoi Dieu dit, il siège au milieu des louanges de son peuple, Dieu descend au milieu des louanges, puis il vient chercher toute la gloire qu'on est en train de dire dans la louange. On dit, merci Seigneur, gloire à ton nom, tu es grand, on chante toutes sortes de paroles pour l'élever, pour le glorifier, pour le remercier. Dieu descend au milieu de nous, puis il prend toute sa gloire qu'on est en train d'y donner. Puis c'est pour ça qu'on peut ressentir sa présence dans la réunion. Il est présent, puis il agrée toutes ces louanges-là, puis ces actions de grâce-là, puis ces prières-là. Puis des fois, on est en train de louer le Seigneur, puis entre deux phrases, on dit « Seigneur, t'es bon », puis on pense à des affaires dans notre tête. « Merci Seigneur d'avoir fait ça ». On rajoute dans notre esprit ou dans notre bouche d'autres mots qui rajoutent encore des louanges, des actions de grâce à Dieu. Ça, c'est un culte que Dieu trouve ça agréable. Quand notre cœur est centré sur lui, puis qu'on chante ses chants pour le louer, puis on lui demande des choses en même temps. Des fois, on peut repenser en louant, on repense à un besoin, puis on représente notre besoin. Puis le dialogue, on commence par offrir à Dieu des choses, puis on écoute Dieu en même temps. On est à l'écoute, des fois il y a une parole prophétique, des fois il y a une parole qui nous est révélée dans l'étude. Dieu veut nous parler, il veut nous combler, il veut nous bénir, il veut nous accorder des choses. On va voir des beaux versets dans ce sens-là. Il veut nous faire du bien. Hébreux 4, 16. Qu'est-ce que ça nous enseigne d'introduire dans nos prières? Que dire dans nos prières? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Qu'est-ce que je peux rajouter dans mes prières pour que de la louange? C'est pas qu'est-ce que j'ai. Ça, l'assurance, c'est quelque chose que je dois avoir. Je dois avoir confiance que Dieu m'a appelé à rentrer dans sa présence. On n'a pas besoin d'avoir peur de prier Dieu. Est-ce que Dieu veut m'écouter? Or, je me sens trop indigne pour demander quelque chose à Dieu. Oubliez ça, chassez ça dans le nom de Jésus. Dieu nous invite les bras tendus. Viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. On a l'invitation. C'est pour ça qu'on peut dire, c'est avec assurance, avec confiance que je me présente devant Dieu pour lui demander les choses que j'ai besoin. Mais ça dans ce que je viens de vous dire là, ça ne dit pas qu'est-ce que je dois mettre dans mes prières. Qu'est-ce que je dois mettre dans mes prières? Premièrement, j'obtiens miséricorde. Si j'ai des péchés, il faut premièrement que ça soit réglé. Quand tu t'approches de Dieu, il faut premièrement que tu demandes pardon de tes péchés. Pour ça, nous autres, l'autre bord, Règle générale, quand on prie, à tout le fait qu'on commence, on prie en confessant premièrement, en demandant à Dieu de nous pardonner de nos péchés et nous laver par le sang de Jésus afin que rien ne nous empêche de rentrer dans sa présence. Là, tu peux t'approcher avec pleine confiance devant le trône de Dieu parce que tu as confiance que premièrement, Dieu veut te pardonner tous tes péchés. Il va enlever tout ce qui te bloque et qui t'empêche d'entrer dans sa présence. Une fois que tu as reçu miséricorde, il t'a donné le pardon. Deuxième chose que tu peux te présenter à Dieu, quand tu vas être devant son trône, tu vas trouver grâce. Il va avoir pitié de toi. Il va vouloir t'accorder des choses. Tu vas être dans un état de recevoir parce que Dieu, il attendait que tu sois là en train d'y demander. Jacques, il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a des chrétiens qui disent, oh mon Dieu, m'exauce jamais. Tu as-tu demandé? Dieu était prêt d'exaucer les prières. Il y a plein de prières, plein d'exaucements de prières dans les lieux célestes qu'il veut nous donner. Mais y a-tu demandé? Après ça, il dit dans Jean, mais vous, si vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, il y a peut-être des sujets de prière qu'on demande qui ne sont pas conformes à sa volonté. Des fois, on est tellement égoïste qu'on pense rien qu'à nous autres quand on se présente à Dieu. Mais Dieu, en général, veut exaucer dans tous nos besoins. Tout ce qui est nécessaire pour que tu vives, vêtements, nourriture, toi sa tête, une job, qu'il faut que tu sois capable de payer tes comptes, pas des exagérations de convoitise, puis on a loadé nos cartes parce qu'on a gaspillé, puis après ça on crie à Dieu pour être sorti de nos problèmes. On peut se mettre les deux pieds dans un plat. Dieu veut premièrement qu'on ait de la sagesse, puis nos besoins, c'est ça que ça dit dans ce passage-là, pour être secouru dans nos besoins. C'est ça qu'a le dernier bout de la phrase. Tu vas trouver grâce, puis tu vas être secouru dans tes besoins. Qu'est-ce que je dois inclure dans mes prières? Premièrement, de demander pardon pour avoir miséricorde, puis après ça, de demander mes besoins. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Il y a un autre verset qui dit ça. Oui, il y a un paquet de conditions dans la prière. Si tu ne pardonnes pas, faut pas t'attendre que Dieu va te pardonner tout de suite, puis tu vas avoir tout ce que tu demandes. Commence par pardonner à ton frère, puis après ça, il y a d'autres conditions. Et tu ne diras pas toutes les conditions, c'est juste un texte de base qu'on voit ce matin. Un autre point que je veux souligner dans ce verset-là, là, souvent on entend, « Oh Seigneur, je viens au pied de ta croix pour obtenir. » Il n'y a aucun verset qui nous dit d'aller au pied de la croix pour recevoir un exaucement de prière. Jésus n'est plus sur la croix. Allez pas au pied de la croix. Ça dit dans ce verset-là, présentez-vous devant le trône de grâce. Amen. Jésus est monté, est assis dans les lieux célestes à la droite de son Père. Quand tu t'adresses au Père, Jésus est assis là, lui tout. Le trône de la grâce, c'est là que les grâces découlent. Les bénédictions, les exaucements de prière, les onctions, les dons spirituels, tout ce que Dieu veut déverser, ça vient du trône de grâce. Ça vient de Dieu lui-même et non pas du pied de la croix. Jésus était sur la croix seulement 3 heures de temps dans toute l'éternité. Il n'est plus là. Oui, il était cloué à la croix pendant 3 heures. Après ça, il est mort, il est sorti de là. Il est ressuscité, puis là, il était au ciel, dans la présence de Dieu. Il faut lâcher cette pensée-là. Je l'ai entendu souvent dans des prières. Masseau au pied de la croix. Où ça, tu vois ça? Il n'y a aucun verset qui dit au pied de la croix. Jésus n'est plus là. Mais présentez tous vos besoins avec confiance. Quel genre de prière peut-on présenter? Parce que la Bible, elle nous présente plusieurs modes de prière. 1 Timothée 2:1. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Qu'est-ce que je peux présenter à Dieu selon ce verset-là? Premièrement, des prières. je peux demander des choses à Dieu. C'est une prière. Ça fait partie du cri prière. Deuxième chose, quel genre de prière? Comment est-ce que je peux me présenter à Dieu en priant? Des supplications. Qu'est-ce que des supplications? Qu'est-ce qui c'est quoi? Se faire supplier ou de supplier quelqu'un. Rappelez-vous quand vous étiez jeune, quand vous étiez en train d'achaler votre père ou votre mère, surtout votre mère, pour demander une chose, puis avec un t'insistes. Moi, je m'en rappelle comme j'étais hier. « Ah ouais, donc, ma, oui, ma, donne-moi les ma, je le veux, ma, ouais, là, t'achales, tu supplies. » Elle finissait toujours par dire oui. Au bout de 10 minutes, elle commençait à être fatiguée. Tu supplies, c'est que t'achales, puis tu continues, puis en mettant un peu de lamentation. C'est ça, des supplications. Puis dans l'Ancien Testament, hein? Ça, c'est un autre, mais là, on est dans ce verset-là. La supplication, là, tu voyais dans l'Ancien Testament, même des hommes, des adultes, là, des hommes, ils allaient voir un roi, ils se mettaient à genoux devant ce roi-là, puis ils suppliaient, « Oh, tu es grand, ô roi, puis t'es ci, puis t'es ça, puis en mettant parce que t'es celui qui cherche à obtenir quelque chose, t'es pas le boss de ce roi-là, puis tu vas me donner ça. » Mais des supplications, ça nous remet dans un rôle qu'on est celui qui doit s'humilier devant Dieu. Il ne faut pas penser que Dieu nous doit de nous exaucer, puis qu'il est obligé de le faire, puis qu'on se pense que je suis quelqu'un d'important, puis tout ce que je demande à Dieu va me le donner de suite. Ça ne marche pas de même. Supplication, c'est humilité. Demander en réclamant, puis en achalant. Oui, tu peux achaler et insister, mais pas se penser qu'on l'a automatiquement parce qu'on... Des requêtes, le mot requête, c'est une autre manière. Dans le grec, le mot que là, ça veut dire converser, une conférence. Ça veut dire, tu es en train d'établir ton dialogue avec Dieu. C'est comme si dans ta tête, tu as un rendez-vous avec Dieu, puis c'est un rendez-vous comme un appointement, prendre un temps de prière le matin, là tu as ta liste de prières, avec tous tes sujets de prière, tu es comme en meeting avec Dieu, là tu présentes tes besoins. Pareil comme un boss d'entreprise, il y a une réunion de comité, tout le monde sont là, tout le monde présente leurs besoins un par l'autre, sont écrits dans l'ordre du jour, puis on discute des points, là c'est le point un tel, ça prend ça Seigneur, tu sais que dans telle situation, là... Dans Varia, il y en a qui c'est dans Varia qui rajoute ça. Mais une liste de prières, parce qu'on sait que ces prières-là doivent être exaucées, ça, c'est un besoin, puis on a un meeting avec Dieu, on est en... Voyez-le dans la requête, dans ce sens-là. Jacques 5:16. On va voir comment mettre l'effet encore dans notre prière, comment est-ce qu'on peut la présenter. On va prendre la deuxième partie de ce verset-là. Il dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Qui est capable de me dire que ça veut dire « ferveur » ?
Convaincu.
Continue. Pas tout à fait. Hein? Force, ça commence...
Conviction,
mais quand tu peux être bien convaincu, puis juste ouais. Demander. Ferveur, hein? Il y a un sens de persévérer, mais le sens ferveur, c'est d'une manière énergique, une manière avec insistance. Prier, là, je vais vous donner un exemple. Si j'arrive à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir un char neuf. Oui, t'as demandé. Là, t'as juste à demander. Mets de la ferveur. Seigneur, tu sais que j'en ai besoin, je t'en supplie. Je te demande de me le donner, puis tu l'as promis dans ta parole. Puis là, t'en mets, tu mets de l'énergie, tu mets toutes tes tripes dans ta prière. Tu y crois que c'est un besoin-là, tu l'as, puis c'est une chose qui est nécessaire. Il y a une grosse différence, prier avec énergie. Un enfant, il prie, il harcèle, puis souvent avec énergie quand il te demande quelque chose. C'est pas juste, père, passe-moi un 5. Peut-être quand t'es rendu adulte, père, passe-moi un 5. Mais quand il est jeune, Là, il achète, puis il achète, puis il insiste, puis il insiste, puis ils vont même pleurer quand il va le demander, puis il en met de l'énergie. Il met de la ferveur, il met de l'intensité. Mais Dieu, il aime ça quand on prie comme ça, puis il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans ce passage-là, si on irait voir l'histoire, agissante, mais fervente, dans le mot grec, c'est avec énergie. C'est Élie, il a prié pour pas qu'il mouille pendant 3 ans de temps dans ce texte-là où ce qu'il fait référence. Puis c'était avec ferveur qu'il a demandé à Dieu que la pluie revienne, puis il a pas lâché, puis il priait avec intensité, puis Dieu a ramené la pluie après le 3 ans. Dieu, il dit que la prière qui est faite avec énergie comme ça, avec conviction, il dit, il aime ce genre de prière-là. Jacques 1:6. Une autre manière qu'on peut la demander. T'as compris? Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par tous les vents et poussé d'un côté et d'autre. Puis l'autre verset dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si on demande de quoi à Dieu dans nos prières, on doute que Dieu va nous exaucer. On y crée pas que Dieu va nous exaucer. On pratique la prière juste parce qu'il faut pratiquer une prière, mais on y crée pas que Dieu est là puis qu'il écoute notre prière et que Dieu va l'exaucer, notre prière. Une prière avec foi, c'est que quand que tu t'arrêtes pour demander une chose, tu as une ferme conviction dans toi que tu es en train de parler à Dieu, que tu sais que Dieu est en train de t'entendre quand tu y parles. Tu es convaincu que Dieu veut exaucer les prières, puis tu lui poses la demande de prière, puis tu es sûr qu'il va t'exaucer. Tu l'attends. Tu as hâte de voir ça, comment est-ce que Dieu va faire qu'il va répondre à ta prière. Tu es convaincu que ce que je t'ai demandé, ça s'en vient. Ça, c'est prier avec foi. Puis ça, tu es exaucé quand tu pries dans ce sens-là. On va voir un verset, une promesse en dernier de l'étude qui parle de ça. Mais si tu demandes des choses à Dieu, tu doutes, tu crois pas qu'il t'écoute, tu crois peut-être même pas qu'il est là, tu crois pas qu'il t'écoute, tu crois pas qu'il a promis d'exaucer les prières, tu crois pas que si tu demandes qu'il va te l'exaucer, fait que tu parles, mais en réalité, tu es vide. Tu n'as pas la conviction. Mais tu pries pour rien. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dieu veut pas qu'on branle dans le manche puis être un roseau agité par les vents, ça nous dit. Nous autres, en Québécois, on dit branler dans le manche. On penche un bord, puis on y croit, puis on penche un bord, on y croit plus. On n'est pas sûr, puis on est sûr, puis on doute à tour de bras. Il veut qu'on soit sûr, confiant. Il a promis, on fait affaire avec un Dieu qui aime exaucer les prières. Croyez ça. Pas parce que je vous l'ai dit, parce que c'est écrit dans la parole que Dieu exauce les prières avec foi. Luc 22, 44. Là, ça nous parle d'un passage de prière que Jésus a prié dans le jardin de Gethsémané. Ça, c'est dans le jardin avant sa crucifixion. Il était en jardin, il était seul avec ses disciples. Puis là, il y avait des oppressions, des attaques de l'ennemi. Il était très troublé. Son esprit, ça nous dit dans le texte, là, il était en agonie. Ça, dans l'agonie, là, c'était une oppression, là, un tourment. Il était tourmenté. Il capotait bien raide en québécois. C'était pas un party de plaisir d'aller mourir sur la croix, d'aller passer à travers tout ce qu'il avait à vivre. Il savait, puis ça faisait longtemps qu'il en parlait à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il le mette à mort, mais il ressuscitera le troisième jour. Même si tu sais que ça doit arriver, son corps capotait, il était troublé, là. Il est en agonie. Puis ça nous dit, il priait plus instamment. Le mot grec, c'est dans le sens plus sérieusement. Il a prié, là, ça va mal. Des fois, quand ça va mal, on est porté à lâcher de prier. Oh, je me laisse aller. On verra, ça va tout bien se placer tout seul. Lui, il n'était pas du genre à laisser passer. Jésus n'était pas du genre à laisser la situation difficile prendre le dessus sur lui. Plus qu'il était tourmenté et était en agonie, plus qu'il s'est remis à prier avec sérieusement. Hein? Excusez-moi. Pour mettre de la sérieusité. Pas prendre ça à la légère. Pas laisser aller. Prendre la situation sérieusement. Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose. Il est capotant. Seigneur, il faut que tu reprennes la situation. Seigneur, tu sais, puis tu t'en remets. Tu redoubles d'efforts à continuer à persévérer dans ta prière sans relâcher. Il était tellement en train de prier instamment puis sérieusement, là, sa sueur, premièrement, prier jusqu'à n'en suer, c'est déjà de l'intensité. Mais quand c'est rendu au point que ta sueur, elle change en mouton de sang, parce que tu reçus du sang, ça commence à être dans le sérieux. Ça commence à être dans l'intensité. Jusqu'à où qu'on est capable de pousser puis de croire que notre prière va nous faire obtenir quelque chose, qui va nous faire obtenir une victoire dans notre vie? Jusqu'à où qu'on est prêt à mettre du sérieux dans nos prières, puis de l'intensité, puis de s'accrocher à Dieu, puis de demander la requête, jusqu'à temps qu'on obtienne l'exaucement? Jésus était dans le genre d'aller jusqu'au bout. Suite après, quand il a fini, il s'est relevé, il est allé voir ses disciples qui étaient en train de dormir. Puis il avait eu la victoire dans sa vie, à ce moment-là. Puis il s'adresse à ses disciples. « Mes petits-enfants, vous n'avez pas été capables de veiller une heure avec moi? » Là, il lui dit, « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Il dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous n'avez pas été capables de prier une heure avec moi? » Il était dans le plus pire moment de toute sa vie, Jésus. Puis il s'est retrouvé tout seul en train de combattre dans la prière, puis il a eu la victoire, puis il était capable de reparler avec douceur à ses disciples. Qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi dans la prière, t'as compris, pour en mettre de l'intensité? Matthieu 17, 21. Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus est en train d'expliquer, parce que ses disciples ont essayé de chasser un démon, ils ont chassé au nom de Jésus, tout ça. Puis le démon n'a pas sorti. Là, les disciples ont baissé les bras. Là, ils ont été voir Jésus, puis ils disent, comment se fait qu'on n'a pas été capable de le sortir? Jésus a voulu leur enseigner, cette sorte de démon-là ne sort que par la prière et par du jeûne. Autrement dit, si vous auriez continué à insister pour que ce démon-là sorte, continuez à prier avec instance, avec ferveur, avec sérieux, puis même être prêt à t'abstenir de manger pendant un temps pour pouvoir rajouter de la pression dans ta prière, c'est sûr que ce démon-là aurait sorti. Jésus est arrivé, puis il a commandé à l'esprit, puis l'esprit a sorti, parce que Jésus était déjà une personne... dans ce qui était dans sa personnalité, dans l'autorité, mais un homme de jeûne et de prière. Jésus, c'était un gars de jeûne et de prière, puis c'était le seul qui pouvait dire à son Père, « Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. » Parce qu'il était dans un état favorable aux yeux de son Père, puis Dieu exauçait toujours ses prières. Mais il était dans un état qui était déjà dans la prière et dans le jeûne, puis que quand il est arrivé, pow! Dieu exaucé la prière, puis le démon sorti de là, ça n'a pas été long. Mais on peut rajouter des jeûnes dans nos prières pour augmenter, pour démontrer à Dieu qu'on veut la chose qu'on est en train de lui demander. On va terminer assez rapidement. Persévérance dans la prière. Combien de temps dois-je prier? Il y en a qui savent déjà les réponses. 1 Chronique 16, 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Faut que tu aies recours à l'Éternel. Faut que tu aies le désir que Dieu intervienne dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a d'entre nous qui se pense autosuffisant puis qui pense qu'ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie? Personne ne lève la main? OK? On le reconnaît qu'on a besoin de Dieu dans notre vie. On le sait que rien, en tant que chrétien, on peut rien faire par nous-mêmes. Faut s'attendre à ce que ce soit Dieu qui fasse les choses. Donc, j'ai toujours dans une attitude que j'ai recours à l'Éternel, puis je m'appuie sur son appui. Je m'appuie sur lui, je fais confiance, je crois que c'est lui qui va agir. Puis pour qu'il agisse, je cherche continuellement sa face. Faut que je reste toujours dans une attitude de demander puis de m'attendre à ce que Dieu fasse les choses dans ma vie. Deuxième point, 1 Thessaloniciens 5:17, il y a quelqu'un qui l'a mentionné. Combien de temps dois-je prier? Mais prier sans cesse. Faut pas se relâcher de prier. Tous les moments sont bons pour prier. T'es sur la job, t'es chez vous, ça va bien, ça va mal. T'es dans un temps de mortalité, t'es dans un temps où t'as toutes les bénédictions qui te coulent, puis tout coule, vous roule numéro un. Peu importe dans la situation que t'es, prie sans cesse. Garde ton contact, garde ton dialogue avec Dieu. Reste dans un esprit de prière puis de louange. Reste en communion avec lui. Puis Dieu va continuer à ouvrir ton chemin. Luc 18, 1. Combien de temps dois-je prier? Jésus leur adressa une parole, une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Combien de personnes qui ont déjà mis une pièce de monnaie dans une machine distributrice, ils payent sur le piton, puis l'objet qu'on achète tombe tout de suite. On est habitué à ce système-là. Tout est instantané. Tu mets ta pièce de monnaie, tu payes sur le piton. Si ça hésite 5 secondes, on s'énerve. Mais la prière, là, des fois, on demande de quoi à Dieu. On demande de quoi à Dieu. Puis là, on n'a même pas quasiment fini notre phrase, qu'on arrête notre phrase, puis on pense à d'autres choses, puis on ne leur demande plus. Qu'est-ce que ça nous dit dans ce verset-là? Combien de temps dois-je prier pour une chose que je suis en train de demander à Dieu? Donnez-moi la réponse. Toujours prier sans se relâcher. Vous avez une liste de prières, là, vous êtes en train de prier pour des choses. Quand est-ce que vous devez arrêter de prier pour cette chose-là? Tant qu'elle va être exaucée et qu'elle va être accomplie. Pas avant. Vous lâchez pas de prier tant qu'elle n'est pas arrivée. À moins que Dieu vous dise non. Ça peut arriver que Dieu dise non pour une chose qui n'est pas selon sa volonté. Mais en général, j'ai une étude que je pourrais faire, là, qu'on l'a faite dans la cellule. Toutes les promesses dans la Bible sur les sujets que Dieu veut qu'on prie. Il y a déjà plein de sujets qui nous ont dit « Priez pour ça, priez pour ça, priez pour ça. » Quand tu te mets à prier pour tout ça, c'est déjà dans le plan de Dieu de vouloir tout exaucer ça. Si vous appuyez sur un verset pour prier pour une chose, c'est sûr qu'il va vous le donner. Quand? Ah, là je ne sais pas. Mais prie sans te relâcher. Tant que tu ne vois pas l'exaucement arriver, continue à le demander.
Même si on voit l'exaucement, il ne faut pas relâcher. Je prie pour des gens au travail. Puis tu vois, j'ai été 2 mois partie de l'ouvrage. Quand je suis revenue à l'ouvrage, ça recommence. Donc, je ne dois pas relâcher, je dois continuer à prier.
C'est vrai que certains sujets, tu vas en prier toute ta vie. Demander pardon à Dieu pour nos péchés. Toute ta vie, il va falloir que tu le demandes. Ça n'arrivera pas un moment où tu vas avoir accompli que tu as été pardonné et que tu arrêtes de le demander. Juste quand tu vas être mort. En attendant, il y a des choses dans la prière qui vont être perpétuel. Toute ta vie, tu vas demander d'être rempli de son Saint-Esprit. Toute ta vie, tu vas aspirer au don spirituel. Toute ta vie, tu vas demander son armure. Toute ta vie, tu vas demander la protection de ses anges. Toute ta vie, tu vas prier pour des choses. Puis là, on pourra en faire une liste. Je l'ai déjà faite. Mais si vous... Moi, ça va vous dire un exemple, là, mon frère, là. Moi, je me suis converti à Jésus-Christ en 1980. Je priais que mon frère, mon père, que Dieu sauve mon frère, ma mère, mon père. Puis je priais sans arrêt. C'est sûr, des moments, ça peut arriver qu'on prie moins, ou plus ardemment, ou avec des jeunes. Ça, c'est pas grave, on persévère. Mon frère s'est converti 20 ans plus tard. Si j'aurais dit au bout de 2 ans, hey, là, c'est un vrai païen, puis il veut rien savoir, c'est un athée, puis il m'a fait ci, puis il m'a fait ça, puis je veux plus rien savoir de lui, puis je commencerais quasiment à dire, frappe-le, Seigneur, il lâche pas. Mais là, qu'on commence à, tiens, au lieu de demander son salut, on demande à Dieu qu'il frappe. Bon, on ne sait pas de quel esprit qu'on est animé quand on dit ça, là. Mais Dieu veut exaucer les prières. Est-ce que quelqu'un va dire amen à cela? Dieu veut exaucer les prières. Il n'y a pas dit quand. Je vais vous donner l'autre verset qui parle de ça, justement. Quels sont les avantages de prier? Luc 18, 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il ne tardera-t-il à leur égard? Et je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dieu, il est prêt, prompt, il est prompt, il a hâte de nous exaucer. Mais ce qu'il y a un petit hic que j'ai compris, c'est qu'est-ce que Dieu appelle prompt, puis moi, qu'est-ce que j'appelle prompt? Il y a une différence d'interprétation entre les deux. Parce que moi, quand je dis que c'est prompt, que c'est rapide, je mets ma pièce de monnaie, je paye sur le piton, puis le sandwich tombe. Je ne mettrai même pas 2 secondes plus tard, j'ai ma sandwich. Pour moi, j'appelle ça prompt. Dieu lui appelait ça prompt. Il dit, ses élus sont en train de crier à lui jour et nuit. Dieu appelle ça prompt, lui, jour et nuit. Combien de temps qu'il a dit que les jours et les nuits se répétaient? Pour lui, il appelle ça prompt. Peut-être une semaine de prière jour et nuit dans certaines situations. Peut-être un mois. Peut-être un an. Puis Dieu, il va faire promptement justice. La prompteté, je sais pas si ça se dit, être prompt pour Dieu puis être prompt pour nous autres. Nous autres, on focus sur notre idée. Si je ne l'ai pas reçu quand j'ai demandé 3 fois, je ne le demande plus. Mais c'est pas de même que ça marche. Fais-toi une liste, puis continue à insister, puis mets de la ferveur, puis dis-toi, c'est sûr que ça va arriver un jour. Il s'agit que je persévère sans me relâcher. Puis Dieu a garanti que promptement il va me faire justice. Mais il dit une autre phrase que je vous ai pas lue tout de suite après. Et le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce que Dieu dit, avoir de la foi, c'est du monde qui demande, puis jour et nuit qui demande, puis qui espère en l'Éternel que Dieu réponde à leurs prières, puis jour et nuit, puis Dieu appelle ça de la foi, puis il dit, quand il va revenir, est-ce qu'il va en avoir de la foi, du monde qui sont capables de prier avec foi, puis sans arrêt, puis jour et nuit, puis attendre avec foi que ça aboutisse? Puis, je vous le répète, Dieu exauce les prières. Fait que, quels sont les avantages de prier? C'est que Dieu répond aux prières. C'est ça qui est le point. Il va faire promptement justice. Luc 21, 36. Quels sont les avantages de prier? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Qu'est-ce que le fait de prier va m'apporter dans ce verset-là? Qu'on va être debout, mais... Parlez un peu plus fort. On va échapper. Mais qu'est-ce qui est le mot qui est juste avant qui a dit afin que. Que vous ayez la force. On a besoin de force pour marcher dans la vie chrétienne. On ne peut pas marcher par nos forces. La vie chrétienne, ça ne s'accomplit pas. Au moins, sois ça. Je pense que je suis assez fort pour pouvoir faire face au diable, résister au monde, puis combattre par ma force mon corps qui essaie de toujours m'amener dans le péché. Oubliez ça. Si vous pensez... Mais pas nos forces humaines, nos forces spirituelles qui vont nous communiquer. Dieu, il dit qu'il n'y a rien qui va nous arriver au-delà de nos forces, mais pas nos forces humaines. Nos forces que lui avait prévu nous donner par son esprit. Il dit dans ce verset-là, « Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper, puis de paraître debout. » Il faut aller chercher la force pour être fort dans le Seigneur, il faut y aller la chercher. Le fait de prier... Le fait de prier, ça te renforcit dans le Seigneur. Puis si tu l'expérimentes de commencer à prendre plus de temps dans la prière, ta vie chrétienne va s'en aller comme ça, en montant. Ta force dans le Seigneur va augmenter. Plus tu vas prier, plus tu vas être une personne qui lit la parole de Dieu, plus qu'une personne qui se nourrit des choses de Dieu, puis qui vit la vie de Dieu, plus ta vie, elle se renforcit. Puis plus que tu te renforcis, plus que le reste a moins d'influence sur ta vie. Le monde a moins d'influence, tu t'en fous ce que le monde pense. Plus que ton corps, le Saint-Esprit a fait mourir l'action de ton corps, plus c'est Dieu qui fait tout, mais c'est la force du Seigneur qu'on a de besoin. Mets-toi en prière, puis tu vas vivre des moments où tu vas sentir la puissance de Dieu qui t'environne, puis tu sais que ça ne vient pas de toi, c'est une puissance qui vient de Dieu. Ça que Jésus a promis à Pentecôte, vous allez recevoir une puissance, pas la vôtre, celle du Saint-Esprit qui surviendra sur vous et vous serez des témoins. Tu ne peux pas être un témoin de Dieu sans la puissance de Dieu. Il faut aller puiser dans la prière pour être rempli de sa force et de sa puissance, pour être capable de marcher en chrétien. Jean 16, 24, qu'est-ce que ça va m'apporter de prier? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que Dieu veut voir des chrétiens qui passent leur temps à être tristes? C'est pas normal. Être un chrétien qui est toujours sur un down, c'est pas normal. Quand on retrouve dans le fruit de l'esprit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la maîtrise de nous-mêmes. Ça, c'est dans le fruit de l'esprit. Plus tu vas être en prière, tu vas demander des choses, puis il va y avoir une joie qui va t'envahir. Puis ça, c'est quoi? C'est la joie du Saint-Esprit. Puis ça c'est en fin de compte un des remèdes pour notre tristesse, pour combattre notre tristesse puis nos dents. Commençons à être des hommes de prière, puis mec, tu vois les fruits des exaucements, ta joie va augmenter. On va finir avec une promesse. Dans Marc 11, 22. Puis même, on devrait tous l'écrire sur quelque part dans notre maison, qu'on l'aille devant nos yeux pour garder. Ça, c'est une promesse, mais il y en a plusieurs dans la Bible. Des promesses dans ce sens-là. Oui. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ayez confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Il dit, « C'est pourquoi je vous le dis. » Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit, ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, parce que Dieu aime exaucer les prières. Il n'a pas dit quand, mais il dit, croyez, ayez foi, continuez, attendez-vous à voir l'exaucement arriver. appartient. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous édifie, ta parole qui nous enseigne, mais qui nous fait du bien, qui nous fait grandir dans une confiance, dans une foi en ce que tu veux faire dans les moments de dialogue avec toi. Apprends-nous à être des hommes et des femmes de prière, qu'on prenne du temps avec toi, puis qu'on puisse te parler et être à l'écoute. Que ce soit des temps individuels ou des temps en groupe, je te demande de bénir ces temps-là. Je te demande pas d'exaucer les prières, ben je sais que c'est déjà dans ton plan de les exaucer. Je te demande de me donner ta sagesse, de me donner le feu, le désir à vouloir commencer à être des intercesseurs, puis à prier, puis à vouloir voir ta main à l'œuvre dans nos vies. On remet nos ventres entre tes mains, je te demande de bénir chaque personne qui sont ici dans le nom de Jésus. Amen.